Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on part pour la Belgique, à Bohan-sur-Semois. Un village tellement encaissé dans sa vallée qu'on l'appelle le bout du monde. Alors, la mission, c'est de comprendre comment un tel isolement a pu forger une identité et une économie aussi singulière. On a une monographie très détaillée pour nous guider.
Oui, et pour comprendre Bohan, il faut d'abord visualiser. Le point de départ, c'est vraiment la géographie. Imagine un village blotti au fond d'un méandre, un virage très serré de la Semois.
D'accord.
La rivière a creusé la roche, le schiste ardennais, pour créer une vallée extrêmement profonde. Cette topographie, ce n'est pas juste un décor, c'est vraiment le personnage principal de toute l'histoire.
Ça crée une sorte de cuvette, c'est ça? J'imagine que ça doit jouer sur le climat?
Complètement. Ça crée ce qu'on appelle une tiédeur humide. Les brouillards matinaux sont quasi permanents et ils agissent un peu comme un couvercle, un régulateur thermique.
Ah oui? Et ça, c'est un avantage. Ça paraît contre-intuitif.
Ça va le devenir. Mais avant ça, il faut voir d'où il partait. Avant cet âge d'or, Bohan, c'était la misère. Le village vivait d'une proto-industrie, la clouterie.
La clouterie, c'est-à-dire fabriquer des clous?
Exactement. C'était un travail domestique, harassant. Toute la famille, y compris les enfants, forgeait des clous à la maison pour un revenu dérisoire.
D'accord, je vois le tableau.
Il y avait même un dicton local qui disait « À Bohan, pauvres gens, pot au feu, rien dedans ». Ça résume assez bien la situation.
Et j'imagine que l'industrialisation au 19e siècle a mis fin à tout ça.
Voilà. Les usines produisent des clous pour rien, donc l'activité s'effondre. Le village est au bord du gouffre.
Et c'est là que le microclimat entre en jeu. C'est ça qui va les sauver, eux.
C'est ça. Par une intuition de génie, en 1847, un instituteur, Joseph Pierret, il a une idée. Il observe cette humidité constante et il se dit que ce climat serait parfait pour une plante subtropicale.
Le tabac.
Le tabac. C'est le début d'une reconversion spectaculaire. Tout le paysage du village change. Des séchoirs à tabac apparaissent partout.
Ces grands bâtiments en bois avec les planches qu'on peut ouvrir et fermer.
Oui, pour réguler l'aération. C'est la clé. Le tabac de la Semois, il est séché à l'air libre, très très lentement, et cette humidité...
Elle l'empêche de sécher trop vite.
Exactement. Ça lui permet de développer des arômes très particuliers, de terre, de sous-bois, des arômes impossibles à obtenir ailleurs.
C'est fascinant. Mais l'histoire de Bohan, ce n'est pas qu'une success story agricole, j'imagine.
Non, loin de là. Son identité, elle est aussi façonnée par son histoire tourmentée et surtout sa position frontalière.
Ah, qui dit frontière dit... contrebande.
Évidemment. La proximité avec la France a créé toute une économie parallèle. On appelait ça pudiquement la fraude.
La fraude, j'aime bien le terme.
En clair, tout le monde faisait passer du tabac, de l'alcool. C'était une part entière de la culture locale.
Et de cette histoire, il reste une cicatrice bien visible dans le paysage, non? Le fameux pont cassé.
Oui. C'est un ancien viaduc ferroviaire. Une histoire en deux temps. D'abord, le génie français le fait sauter en 1940 pour ralentir l'avancée allemande.
D'accord.
Et puis en 1944, ce sont les Allemands qui le détruisent à leur tour pendant leur retraite.
Et après la guerre, on ne le reconstruit pas?
Non. Jugé non rentable. Il n'a jamais été reconstruit. Donc, on se retrouve avec cette ruine au milieu du paysage.
Le symbole d'un échec, en somme, une connexion perdue?
On pourrait le voir comme ça. Mais en fait, c'est devenu tout le contraire. Cette ruine, c'est l'emblème visuel du village, un monument involontaire qui raconte la violence de l'histoire, oui, mais aussi la résilience de cette vallée.
C'est incroyable, comme leçon d'adaptation. Chaque contrainte, la vallée isolée, l'industrie qui meurt, le pont détruit, ils ont réussi à la transformer, soit en opportunité, soit en symbole.
Ce qui nous amène à une question de fond, je trouve. L'identité d'un territoire, au final, est-ce qu'elle se mesure à sa capacité de production, comme le tabac hier, ou alors à sa capacité de transformer ses propres cicatrices, ses blessures, en patrimoine? Un peu à l'image de ce pont qui aujourd'hui ne mène plus nulle part, mais qui en fait raconte absolument tout.